Je voudrais d'abord, dans l'introduction, expliquer pourquoi nous allons faire du droit pendant ce séminaire consacré aux enjeux de la transmission de la vie par le corps. Et puis, je vous expliquerai l'objectif de cette leçon-ci. Alain Mathéus, jeudi dernier, nous a donné une très belle perspective sur le corps habité, habité par l'autre, habité par Dieu. Et donc, comme chrétiens, nous pouvons déployer, à partir de l'Écriture, une certaine intelligence du corps. La Bible, en particulier à partir du livre de la Genèse, mais ça continue, comme vous le savez, la Bible est révélatrice de ce qu'est l'homme en son propre corps. Et comme il s'agit ici non pas d'un séminaire d'écriture, mais de ce que dans la maison on appelle un quatrième séminaire, c'est-à-dire un séminaire de confrontation avec la réalité contemporaine, je voudrais prendre précisément le droit comme cette porte d'entrée vers la mentalité contemporaine. On pourrait prendre la littérature ou la sociologie ou la psychologie ou d'autres portes. Je prends le droit qui a l'avantage d'être une matière éthique, qui indique que le devoir est, ce qui doit être. Et donc, le droit, c'est une morale commune qui a lieu, qui a cours, dans un espace déterminé. Nous allons y revenir. J'insiste sur le fait qu'elle est commune. Tandis que, lorsque l'Église, ou une cellule d'Église comme un institut d'études théologiques, parcourt l'Écriture, pour y reconnaître des données intéressantes sur le corps, sur la vie, sur la transmission de la vie, eh bien, ce discours-là, proprement théologique, fondé sur l'Écriture, il est bon qu'il puisse être confronté, c'est ça l'objectif du quatrième séminaire, que ce discours-là puisse être confronté au discours qui se dit aujourd'hui sur divers registres, mais ce soir, nous prenons le registre juridique. Donc, pourquoi le droit ? J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, vous me reposerez des questions. Alors, le défi du droit familial. Donc, on avance. Il s'agit ici, non pas du droit pénal, non pas du droit fiscal ou commercial, mais d'un type particulier de droit civil. À l'intérieur du droit civil, non pas la propriété ou les obligations, mais le droit de la famille. Pourquoi est-ce que ça représente un défi ? Parce que le droit a une source que l'on pourrait dire, on pourra revenir là-dessus, une source politique. Le droit règne à l'intérieur d'un espace que nous allons bientôt détailler, mais qui est un espace proprement politique. Tandis que le droit va exercer sa contrainte de l'extérieur. Et vous aurez, si vous n'avez pas payé votre dette, vous aurez l'huissier. Si vous avez commis une infraction, vous aurez une amende. Donc il y aura des pressions qui viendront de l'extérieur pour commander votre comportement. Tandis que lorsque nous sommes dans la famille, non plus dans le droit des obligations ou dans le droit de propriété, si on vient briser votre propriété, eh bien vous allez réagir et le droit va réagir avec vous pour condamner celui qui a causer un dommage à votre propriété, à votre voiture automobile, par exemple. Ici, lorsqu'il s'agit de la famille, il ne s'agit plus d'une voiture, il s'agit de sentiments, essentiellement à la base, d'affection. Donc c'est un phénomène qui est plus intérieur. Et donc, c'est un petit peu un défi de régir des sentiments qui se passent à l'intérieur des sujets, l'homme, la femme, l'enfant, et la contrainte extérieure inhérente au droit. Est-ce que le droit peut demander à des époux de s'aimer. On peut leur enjoindre fidélité, secours et assistance. Fidélité, secours et assistance. Mais est-ce qu'on peut demander, est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'injonction extérieure? Pas tellement, puisqu'il est juridique. Mais le droit peut dire, si monsieur est parti en laissant madame avec les enfants, le droit peut condamner une pension alimentaire. Donc peut exercer sa pression, sa contrainte extérieure, à partir d'un événement familial, qui est le mariage et l'engendrement des enfants, mais on voit bien qu'il n'a pas de réelle prise sur le cœur de la famille, sur l'intimité de la vie familiale. Bon, voilà une deuxième remarque à garder en tête. Alors, de façon plus technique, disons, l'espace du droit. D'abord, retenez l'adresse électronique que vous avez sur votre feuille de route. C'est à cet endroit-là que vous trouverez tout ce que vous cherchez en termes de loi, de législation en Belgique. Et donc, plutôt que de vous promener avec un code qui ne donne qu'une toute petite partie des lois en vigueur en Belgique, promenez-vous plutôt avec votre ordinateur et cette adresse électronique, et vous aurez, avec un petit peu de manipulation, vous pourrez trouver toutes les lois que vous cherchez, le code civil, les conventions européennes, etc. Donc, j'attire votre attention sur le fait que le droit dont nous allons parler, il est à géométrie variable. Donc, nous allons essentiellement parler du droit belge, donc il est fédéral. Et notre code civil reste encore une matière fédérale. Les conditions pour se marier, pour divorcer, pour adopter des enfants sont les mêmes dans la région bruxelloise, la région flamande et la région wallonne. Mais pour adopter, ce n'est déjà plus tout à fait la même chose, puisque les candidats à l'adoption doivent passer par des œuvres d'adoption et par des formations pour être parents adoptifs. Et là, comme il s'agit d'une matière que l'on appelait autrefois personnalisable, elles ressortissent aux communautés. Et c'est donc la communauté française d'un côté, la communauté flamande de l'autre, qui va chacune organiser ses formations et exercer la tutelle sur les œuvres d'adoption pour voir si les candidats adoptants flamands font du bon travail auprès de, ou feront, ou promettent de faire du bon travail auprès des enfants adoptifs. Donc, il y a déjà, même à l'intérieur de la Belgique, sur une matière très unifiée comme le droit familial, il y a déjà une petite division de l'espace entre nos communautés. Mais plus important, c'est l'espace européen. Et je pense ici, non pas d'abord à l'Union européenne que les Bruxellois connaissent bien, mais le Conseil de l'Europe, Strasbourg, avec la Convention européenne des droits de l'homme. Et dans cette feuille de route, je vous cite l'article 8 qui parle au respect de la vie privée et familiale. Donc, en 1950, au moment où les 2 ans après que les Nations Unies ont proclamé les Déclarations universelles des droits de l'homme, l'Europe a voulu, à son tour, donner davantage de force à ces droits de l'homme, et dans l'énumération des droits de l'homme qu'ils s'engageaient à défendre ensemble, avec un recours juridictionnel à Strasbourg, justement, ils ont énoncé le droit à la vie privée et familiale. Donc, il y a une certaine intimité de la vie privée, une certaine intimité de la famille, qui est une valeur européenne et qui fait partie de ce trésor, si vous voulez, que tous les membres du Conseil de l'Europe veulent défendre. De telle sorte que, si au niveau belge, il y a à un moment donné, de la part de l'État, une atteinte à la vie privée et familiale, la personne qui s'estime lésée dans son atteinte va demander, évidemment, s'adresser d'abord au juge belge pour demander la réparation de cette atteinte. Et puis, ayant épuisé tous les recours en droit interne, elle va sauter au-dessus de l'espace belge, intégrer l'espace européen et demander justice, demander que on déclare, que les juges de Strasbourg déclarent que la Belgique, l'État belge, a violé la loi, a violé la Convention européenne des droits de l'homme en violant, en ne protégeant pas, en ne respectant pas la vie privée et familiale. Un autre article qui va être très important dans la suite de la réflexion, c'est l'article 14 qui interdit la discrimination. Alors, la discrimination, ce n'est pas nécessairement la distinction. On fait tout le temps des distinctions. Les plus de 65 ans peuvent avoir la STIP gratuitement. Voilà, une distinction. Les moins de 65 ans, ce n'est pas gratuit. Les plus de 65 ans, c'est gratuit. Voilà, on fait une distinction. Je ne suis pas sûr que cette distinction soit raisonnable. Pourquoi est-ce que les gens de 65 ans devraient avoir le bus gratuit, alors qu'en général, quand on a économisé toute sa vie, on est probablement plus riche que le jeune ménage qui a fait un emprunt comme ça pour rembourser la maison et qui donne. Peut-être bien qu'un jour, il y aura une contestation de cette distinction-là. Mais en tout cas, la distinction entre les catégories de gens, on peut toujours faire des distinctions, mais il faut qu'elles soient justifiées. Il ne faut pas qu'elles soient arbitraires. Je ne peux pas dire, bien, les gens de race noire seront moins protégés dans leur sécurité que les gens de race blanche, ou les hommes plutôt que les femmes, ou les jeunes plutôt que les vieux. Donc, les distinctions sont admissibles, pourvu qu'elles poursuivent un but raisonnable, et que les mesures qui s'appliquent aux diverses catégories soient proportionnées à l'objectif. Donc on ne peut pas faire de discrimination, alors la distinction devient discrimination lorsque une catégorie particulière est systématiquement désavantagée au détriment d'une autre, en raison de l'origine sociale, en raison de la nationalité, en raison du sexe, en raison de l'âge, en raison de la naissance. Il ne peut pas y avoir de distinction entre les humains en raison de leur naissance. Voilà le cadre qui est dressé, pourquoi le droit, le défi que représente le droit familial et les différents espaces. Oui, j'oublie l'espace mondial, puisqu'il existe l'Organisation des Nations Unies qui est une source de droit très importante, entre autres le pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'autre aux droits économiques, sociaux et culturels, qui mettent davantage en valeur, en vigueur, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et puis en 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant. Et donc là, l'espace est universel, c'est au niveau mondial que les Nations Unies s'engagent à protéger l'identité de l'enfant, le droit qu'il puisse, si possible, connaître ses origines, etc. Donc, la famille, elle intéresse tout le monde, finalement. D'accord ? Là-dessus, je commence le cours lui-même, et l'objectif, c'est essentiellement, puisque le titre du séminaire, c'est « De la vie reçue à la vie donnée », c'est d'essayer de montrer comment la vie donnée qu'il y a, disons, 50 ans, la vie donnée se passait normalement à l'intérieur du mariage, cette normalité est de plus en plus gommée. Et donc, c'est ce fait-là, cette morale commune que l'on trouve aujourd'hui dans notre époque, qui doit faire réfléchir le théologien. Donc, la démarche que nous faisons ici, c'est une démarche de recherche, si vous voulez. Bon, je vous donne un certain nombre de faits, mais il faudra voir, dans la confrontation, quelles conclusions nous pouvons en tirer, aussi bien sur l'Église que sur le monde, que sur nous-mêmes, que sur le professeur qui vous donne cours, enfin, tout ce que vous voulez. Mais on cherche. D'accord ? L'alliance matrimoniale. J'ai dit, le mariage constituait le lieu normal de l'engendrement de l'enfant. Donc, c'était Autrefois, dans l'Ancien Régime, on parlait de bâtard lorsque un enfant était né en dehors du mariage. Et le mot bâtard, c'est un terme légèrement péjoratif. Et donc, cette pratique de l'Ancien Régime est passée dans le Code Napoléon de 1804. Et pour ce Code de 1804, un enfant naît normalement, disons, il naît légitimement, lorsque l'homme et la femme ont contracté entre eux alliance. Cette alliance étant celle du mariage. Il y a une parole qui a été dite de façon officielle, peut-être plus devant M. le curé, puisque le mariage est devenu à la Révolution française une institution civile, qui s'est émancipée de la tutelle de l'Église, mais c'est une parole qui a tout de même été dite devant M. l'officier de l'État civil. Alors, c'est pour montrer que c'est dans le mariage que un enfant naît normalement, naît légitimement, je voudrais attirer votre attention sur le régime de preuve de la filiation. Vous allez dire, les juristes se posent de curieuses questions, mais il s'agit quand même de savoir de qui je suis le fils ou de qui je suis le père. Donc, le droit va régler des relations, à l'intérieur de la cité. La cité pouvant être la cité belge ou même la cité européenne. Le droit doit régler les relations. Et donc, une des relations les plus fondamentales, c'est la relation de paternité et de maternité. Donc, il est important de pouvoir identifier l'enfant et de dire qui est son père ou qui est sa mère. Mais comment savoir, comment qualifier un enfant, comment prouver il est l'enfant de tel monsieur, de telle madame. La preuve de la filiation. Faites attention. Lorsqu'il s'agit d'une femme mariée, lorsque la femme est mariée, c'est ici la faveur que nous voyons dans le mariage. La preuve de la filiation se fait par l'accouchement. Donc, lorsque on mentionne dans l'acte d'état civil que madame Dupont a mis au monde le petit Antoine, eh bien, le petit Antoine Dupont est le fils de sa mère. C'est, pour le droit, c'est clair. La filiation est établie du simple fait de l'accouchement. Le père, c'est encore plus simple, puisque madame Dupont est mariée avec monsieur Dupont, c'est son mari qui est présumé le père de l'enfant. Et donc, si lui estime que sa femme n'était peut-être pas tout à fait fidèle pendant qu'il était à l'étranger, il va devoir renverser la présomption de paternité qui pèse sur lui. Il doit le faire dans un délai relativement court, parce que le droit va pencher en faveur de la légitimité, en faveur du mariage, parce qu'il estime que c'est la meilleure place de l'enfant, c'est de se trouver mettre dans un ménage où l'homme et la femme sont mariés. Ça, c'est pour la filiation dite légitime. Lorsque la femme qui met au monde un enfant n'est pas mariée, alors nous ne sommes plus dans une filiation légitime, mais on prend un mot curieux, nous sommes dans la filiation naturelle. Donc, c'est un enfant, c'est intéressant les mots, c'est un enfant qui s'est fait selon la nature. L'homme et la femme se sont rencontrés, ils ont eu un enfant. C'est fait selon la nature. Mais ce n'est pas entré dans l'ordre du droit. Ce n'est pas entré dans la légitimité. Ce n'est pas entré dans la normalité prévue par le droit. Ce n'est pas entré dans la parole du mariage. Et donc, pour compenser cette absence de parole que l'on n'a pas eue, en l'occurrence dans le mariage, le législateur de 1804... Ça a duré pendant un siècle et demi. Le législateur de 1804 dit que le père, comme il n'est pas marié, par définition, par hypothèse, il n'y a aucune présomption de paternité qui pèse sur lui. Donc lui, il doit reconnaître l'enfant. Donc il doit faire acte de parole, il doit aller devant le notaire, devant l'officier d'état civil, et dire, cet enfant, c'est le mien. C'est à moi, je suis le père de cet enfant.
Et la mère qui a mis au monde l'enfant doit faire la même démarche que le père et dire « Cet enfant, je le reconnais pour mien. » Vous allez dire, mais c'est idiot, puisque son nom est déjà indiqué dans l'acte de naissance. Et en Belgique, contrairement à la France, l'officier d'état civil est obligé d'indiquer le nom de la femme qui a accouché. Bien, justement, dans la logique du code Napoléon, la maternité n'est pas simplement un fait de la nature, la maternité est un fait qui exige l'engagement de liberté de l'homme et de la femme dans l'acte de reconnaissance. Vous y êtes ? Alors, vous voyez qu'il y a donc une nette préférence donnée au mariage. Maintenant, si je quitte la filiation naturelle que l'on appelle la filiation naturelle simple, où, disons, l'homme et la femme étaient célibataires l'un et l'autre, le père et la mère étaient célibataires l'un et l'autre, nous entrons dans des situations plus compliquées lorsque l'homme ou la femme était marié, mais avec quelqu'un d'autre que celui qui a engendré l'enfant. Et donc, nous avons affaire soit à l'adultère, ou alors, si on pourrait dire plus grave encore, l'inceste. L'inceste étant défini par la relation sexuelle entre personnes entre lesquelles il y a interdiction de mariage. Donc, vous voyez que dans ces deux cas-ci, l'adultère ou l'inceste, c'est le mariage qui est directement mis en cause, et la réaction du droit à l'égard de l'enfant né de l'adultère ou l'enfant né de l'inceste, c'est l'interdiction de la reconnaissance qui révélerait l'adultère ou qui révélerait l'inceste. Si une femme est enceinte de son frère, qu'elle n'est pas mariée évidemment avec son frère, elle peut reconnaître l'enfant. Mais son frère ne pourra pas reconnaître l'enfant. Puisque si elle reconnaît l'enfant et que lui, le frère, reconnaît l'enfant, l'inceste apparaît. Et le droit ne veut pas qu'apparaisse l'inceste. Parce que pour lui, la normalité, c'est toujours la référence clé, c'est celle du mariage. Même chose pour l'adultère. Un homme marié a un écart avec une autre femme que la sienne, il ne pourra pas reconnaître son enfant. Alors, le droit à aménager des actions en aliment, où on obligera quand même le père à entretenir l'enfant et à fournir des aliments, ce qu'on appelle les aliments, donc l'entretien de l'enfant jusqu'à la majorité de l'enfant, mais c'est de cette façon-là que le droit entend maintenir la faveur qu'il accorde au mari. Je dis, la société d'alors, largement chrétienne, continue à s'inspirer des caractéristiques sacramentelles du mariage, même si on en a fait une institution civile. Donc on dit, bien, le mariage, avec ce que ça requiert de fidélité, d'indissolubilité, d'unicité, paraît aux yeux du législateur la cellule idéale pour accueillir l'enfant, et on en tire les conséquences sur le plan de l'établissement de la fille. Alors, ça, c'est l'établissement de la filiation. Mais alors, une fois que la filiation est établie, vous allez avoir, pour le petit légitime, il a tous les avantages. Il entre dans toute la famille de ses pères et mères, grand-père, grand-mère. Il a l'héritage le plus complet possible. Tandis que, pour l'enfant naturel, comme c'est quelque chose qui n'est pas normal, d'une filiation qui n'est pas normale, elle est limitée à l'auteur de la reconnaissance. Donc juridiquement, je dis bien juridiquement, je ne dis pas dans les faits, mais un enfant naturel reconnu par sa mère n'a pas de grand-mère maternelle, n'a pas de grand-père maternel. Juridiquement. Donc il n'y a pas de lien de droit entre l'enfant et ses grands-parents. Juridiquement aussi, l'enfant naturel ne peut pas hériter de la même part que l'enfant légitime. Si il vient en concurrence, si dans la suite, la jeune fille qui a eu un enfant se marie et a des enfants légitimes, eh bien, l'enfant naturel n'aura pas la même part d'héritage que les enfants légitimes. Donc, vous voyez comment la société se structure pour faire peser tout son poids sur le mariage. D'accord ? Ça, c'est jusque en 1979. Madame Paula Marx, journaliste à Anvers, met au monde une fille qui se prénomme Alexandre. Paula est célibataire. Elle reconnaît son enfant. Et puis, pour que son enfant puisse hériter d'elle à part entière, et non pas une portion diminuée, elle l'adopte. Elle adopte son propre enfant pour que il puisse surmonter l'obstacle que le droit civil mettait à la part réduite de l'héritage des enfants naturels. Alors, voilà. Elle n'est pas satisfaite de son sort. Dit, il y a quelque chose d'injuste dans la situation qui est faite à moi, Paula, et à ma fille, Alexandra. Je vous passe les détails. Toujours est-il que les deux plaignantes, évidemment, la mère agissant au nom de sa fille, parce qu'elle est trop petite pour aller à Strasbourg toute seule, les deux plaignantes se retrouvent à la Commission, puis à la Cour européenne des droits de l'homme, invoquant dans les chefs de l'État belge une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège la vie privée et familiale et l'article 14 qui interdit la discrimination fondée sur la naissance. Et les deux femmes obtiennent gain de cause. Donc, ça a été un petit séisme dans le monde juridique en 1979, lorsque la loi belge, c'est-à-dire le vieux code civil de 1804, quelque peu rapiécé entre-temps, mais lorsque la loi belge s'est trouvée condamnée par la Convention européenne des droits de l'homme. Parce que ce qui a joué, c'est la liberté, essentiellement en référence à l'article 8, et c'est l'égalité en référence à l'article 14. Pourquoi une femme, pourquoi une mère, devrait-elle être mariée pour établir sa filiation ? Est-ce que, en imposant à la mère de faire la démarche supplémentaire d'aller reconnaître son enfant, est-ce que il n'y a pas de la part de l'État une ingérence dans la vie privée de cette famille ? Je m'explique. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a une vie familiale entre Paula et Alexandra ? Paula a mis au monde une fille. Il y a un lien familial très fort entre la mère et la fille. Et donc l'État vient mettre son nez là-dedans en disant « Madame, si vous n'allez pas chez le notaire ou alors à la maison communale pour dire que vous reconnaissez votre enfant », moi, je dis, je ne peux pas dire que vous êtes la mère de cet enfant. C'est quand même fort. C'est moi qui l'ai mise au monde, ma petite. Et vous, l'État, vous m'empêchez de dire que je suis sa mère ? Vous m'obligez à reconnaître mon enfant ? C'est une atteinte au respect de ma vie privée et familiale.
En outre,
atteinte à l'égalité, les légitimes, eux, les enfants légitimes, ils ont leur filiation établie tout de suite. Quand on lui dit « Madame, c'est un garçon », hop, elle est déjà la mère. Et les autres, tandis que l'enfant qui naît d'une femme qui n'est pas mariée, il est privé de filiation maternelle, la petite a été privée de filiation maternelle pendant 13 jours. 13 jours, cette petite-là n'avait juridiquement pas de mère. Et si sa maman s'en occupait très bien, mais juridiquement, elle n'avait pas de mère. Donc, sur le plan du droit, il y a une profonde inégalité. Déjà, dans la simple reconnaissance de l'enfant. Attends, je ne vous parle pas du fait, dans les relations personnelles, que cette petite Alexandra n'aura jamais de grand-mère, sauf au moment où elle est adoptée, et que cette petite Alexandra n'aurait eu qu'une part moindre d'héritage si sa maman ne l'avait pas adoptée. Oui, il y avait encore un autre dilemme, c'est que pour que sa fille puisse avoir une part complète d'héritage, la mère pouvait ne pas la reconnaître du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle pouvait à ce moment-là lui donner une part... Enfin, dans des complications, je ne voulais pas vous brouiller davantage. Mais vous voyez bien que le système de faveur donné au mariage est vu 150 ans après, 1979, comme un système qui brime la liberté de la mère et qui établit une discrimination entre les enfants. Les enfants légitimes et les enfants naturels. Et donc, au nom du respect des droits de l'homme, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la Cour de Strasbourg dit que la Belgique viole la loi. Alors, c'est un... Oui, j'ai l'arrêt ici, et comme je l'ai photocopié deux fois par erreur, si ça l'intéresse, il peut... Il y a, entre autres, une opinion dissidente. Vous savez que lorsqu'un juge... les juges prennent leur décision majorité contre opposition et un juge qui a été mis en minorité peut s'exprimer. Il y a une opinion très intéressante de l'anglais Fitzmaurice qui dit, vous êtes quand même un peu drôle mes chers collègues, lorsqu'on dit qu'on veut protéger la vie privée et familiale et que l'article ajoute le domicile et la correspondance, de quoi s'agit-il? Ben, il s'agit essentiellement de protéger une famille, serait-ce même la famille royale, contre l'intrusion des photographes qui voudraient prendre des clichés et les vendre très cher après dans les illustrés. Donc, il faut pouvoir laisser les gens à l'abri, en anglais, « the right to be let alone », donc avoir la paix, ma vie privée, ma vie familiale, on ne doit pas tout débattre comme ça dans les journaux, mon domicile, ma correspondance, on voit bien que c'est un article de protection. Mais alors de là, à venir dire que lorsque, très sagement, dit l'anglais pour défendre la Belgique, lorsque très sagement le législateur belge établit une différence d'établissement de filiation paternelle, ça c'est évident, mais maternelle, selon que la femme est mariée ou non, c'est une disposition qui paraît assez sage, étant donné que dans le mariage, la femme s'est déjà engagée à avoir des enfants. Ce qui n'apparaît pas lorsque l'enfant vient est naturel. Donc c'est une disposition qui me paraît assez sage, dit l'anglais, mais, mes chers collègues, je crains que vous ne détourniez, que vous ne tiriez, que vous n'interprétiez trop cette disposition protectrice de la vie privée et familiale pour attaquer une institution, l'institution faite par l'État, du mariage et des conséquences à en tirer sur le plan de l'établissement de la filiation. Donc, toujours est-il que, voilà, la Belgique a dû, et ça a pris un certain temps, 1979, l'arrêt Marx, et la grosse modification de la législation qui a encaissé et vraiment intégré l'arrêt Marx, date de 1987, parce que ça bouleversait assez bien l'économie du droit familial. Les notaires ont dû beaucoup travailler là-dessus, par exemple pour le partage des successions, les officiers de l'état civil, enfin ça fait un grand branle-bas de combat, mais depuis 1987, on ne parle plus d'enfant légitime ou d'enfant naturel. Un enfant est un enfant. Et donc, la preuve de la maternité, c'est pour toute femme l'accouchement. Donc, il n'y a plus la femme ne doit plus reconnaître son enfant. Et c'est l'adage latin mater semper certa est. La femme est, la mère est toujours certaine. Ce qui veut dire que, aussi, tous les enfants, qu'ils soient légitimes ou qu'ils soient naturels, doivent être mis sur le même pied en ce qui concerne les relations personnelles avec les grands-parents et tout le reste de la famille, et les relations patrimoniales en ce qui concerne le droit de succession. Donc, en ayant supprimé la différence entre l'enfant légitime et l'enfant naturel, notre droit a pratiquement supprimé la faveur donnée au mariage dans l'établissement de la filiation. Et j'en conclus, l'homme et la femme sont libres de procréer comme ils l'entendent, juridiquement, hein, sans donc avoir pris la responsabilité de manifester officiellement entre eux un quelconque engagement mutuel. Donc, si vous voulez, on a dit que tous les enfants deviennent légitimes en 1987. Mais vous pourriez aussi bien dire que tous les enfants deviennent naturels, au sens où ce qui va compter désormais dans la filiation, c'est l'accouchement, que la femme soit mariée ou non, peu importe, c'est le fait même, c'est la nature même qui va montrer le lien de filiation, et il restera juste comme différence la présomption de paternité du mari de la mère, mais cette présomption de paternité va être, elle, je vous disais tout à l'heure qu'elle pouvait être contestée par l'homme qui avait des doutes sur la fidélité de sa femme, mais à partir de cette même loi, la paternité peut être contestée non seulement par le mari, mais par la femme. Donc la femme pourra faire valoir son propre adultère et contester la paternité de son mari, et lorsqu'il aura 18 ans, l'enfant lui-même pourra contester la paternité de celui qui lui est attribué pour père. Bon, il y a les questions de possession d'État, mais je ne vais pas entrer dans les détails qui limitent cette possibilité d'action-là. Mais on voit bien que toute la tendance, alors, du droit de la filiation va être de laisser s'estomper la faveur accordée au mariage pour faire apparaître le caractère tout simplement naturel de la filiation. Et que de voir en réalité qui est le père, qui est la mère, celle qui accouche, c'est clair, qui est le père, eh bien, celui que l'on peut identifier comme tel. Et quand je dis identifier, on pourra recourir de plus en plus largement à l'examen comparatif des sangs ou au test d'ADN. Donc la science va prendre plus d'importance maintenant, donc le progrès scientifique va accompagner cette évolution pour déterminer la relation. Alors, ça c'était pour l'enfant naturel simple, ce qui était le cas de d'Alexandra Marx. Maintenant, qu'en est-il de l'adultère et de l'inceste? Eh bien, ici aussi, puisque, c'est assez logique, puisque le mariage a moins de faveur pour l'établissement de la filiation, eh bien, la situation des enfants adultérins et la situation des enfants incestueux va être davantage accueillie par le nouveau droit. Et donc, l'enfant adultérin va pouvoir être reconnu non plus seulement par un des deux auteurs sans qu'apparaisse l'adultère, mais par les deux auteurs. Donc, si une femme célibataire met au monde un enfant, un homme marié va désormais pouvoir reconnaître cet enfant. La seule chose qu'on lui demande, c'est de prévenir son conjoint.
Donc quand il reconnaît un enfant qui n'est pas de son épouse, il doit au moins avertir son épouse. Donc, père et mère d'un enfant adultérin peuvent le reconnaître. Et il y a des pistes qui commencent à se dessiner en vue de la reconnaissance de l'enfant incestueux. Non pas l'inceste proprement dit, serait dû au lien du sang, parce que là, il reste ce que les juristes ou les anthropologues appellent une zone d'horreur, et on dit non, le père et la fille, la mère et le fils, le frère et la sœur, donc on ne va quand même pas dire, on ne va quand même pas faire apparaître sur la place publique cette filiation incestueuse. Mais lorsque la parenté est simplement basée sur l'alliance, alors vous pourrez avoir un début de reconnaissance. Je cite une affaire passée en Belgique. Voilà une femme qui a un premier mari et elle a une fille. D'accord ? Elle divorce, elle épouse un second monsieur, le second mari, et il divorce aussi. Or, il se fait que le second mari a eu un enfant avec la fille de sa femme, de la femme avec le premier mari. Donc, on considère qu'il s'agit d'un inceste parce que il a fait un enfant avec la fille de sa femme. Mais on considérera qu'il est admis à reconnaître sa paternité sur la fille de sa femme, étant donné que, pourvu qu'il y ait eu divorce, pourvu que l'alliance qui produisait l'inceste ait été rompue par le divorce. Et cette décision de jurisprudence, rendue au nom de l'égalité toujours, puisque tous les enfants pratiquement sont reconnus, voient leur filiation établie. Si vous excluez cette petite-là de la reconnaissance, si vous ne lui permettez pas d'avoir un père, elle est discriminée par rapport à tous les enfants qui peuvent avoir un père. Donc, quelle est la démarche qui est faite ? C'est que un enfant est égal à un enfant. Et donc, à partir de l'égalité des enfants, ce qui compte, c'est le résultat. Voyez, le processus qui précède la naissance de l'enfant, qu'il soit marié, qu'il n'ait pas eu mariage, qu'il ait eu adultère, qu'il ait eu inceste, le processus qui aboutit à la naissance de l'enfant perd sa pertinence au profit de l'enfant qui est là et qui doit pouvoir être équiparé, qui doit pouvoir être mis sur le même pied que tout autre enfant. Vous voyez, c'est un peu ça la logique qui va jouer. Et donc, la condition du mariage n'a plus nécessairement de raison d'être, puisque simplement, il s'agit qu'un enfant soit là, et dès qu'il est là, il doit être mis sur le même pied que les autres, on doit lui donner un père et une mère. Ça va ? Vous voyez un peu ? Maintenant, j'achève. Les extrêmes de l'absence, c'est la femme sans autre. Et ça, c'est une prise de position assez vigoureuse de Robert Badinter, l'ancien garde des Sceaux français, qui a plaidé pour le fait que, maintenant que nous avons la procréation médicalement assistée, il paraît assez logique que une femme seule puisse avoir accès à l'insémination artificielle ou à la fécondation in vitro de telle sorte que elle puisse mettre au monde un enfant. Étant entendu que ça fait partie de son épanouissement à elle, de pouvoir avoir un enfant sans nécessairement s'encombrer du compagnon d'un soir, comme dit poétiquement Badinter. Et il justifie cette prétention-là par les droits de l'homme, avec évidemment la vie privée. Donc, la vie privée étant comprise non pas la protection contre les photographes, mais la protection contre toute institution juridique qui voudrait imposer à une femme d'avoir une relation avec un homme pour pouvoir engendrer. Cette injonction-là est une atteinte à sa vie privée. Elle doit pouvoir être laissée maîtresse de ses propres facultés de reproduction pour engendrer. Alors ça c'est l'article 8 pour la vie privée, mais Badinter subtilement invoque aussi, je ne vous en ai pas parlé, l'article 3 qui est le droit à la vie. Et en disant, là aussi il tire un petit peu sur le texte, mais les juristes en ont l'habitude, est-ce que dit-il le droit à la vie, c'est simplement le droit à être protégé par les gendarmes, en fait, est-ce qu'on ne porte pas atteinte et qu'on incrimine les assassins et donc que l'on joue sur la sécurité, l'État a une responsabilité d'assurer la sécurité à l'intérieur de la cité, et donc la vie est protégée, mais Badinter dit, mais droit à la vie, c'est pas le droit de donner la vie. Donc le droit de donner la vie comme je veux, droit à la vie. Essayez un peu de ne pas vous rester figé sur une compréhension trop étroite du droit à la vie où vous voudriez protéger votre vie humaine, et de dire droit à la vie. Allez, droit à la vie. Est-ce que la vie, il ne faut pas pouvoir la donner, comme on l'entend. Et donc, ce droit à la vie peut être conçu comme le droit de donner la vie, comme je l'entends, et ça fait partie, dit Badinter, des possibilités d'épanouissement de la femme, de pouvoir donner la vie de cette manière-là. Je vous signale, et alors quand on lui dit à M. Badinter, oui, enfin quand même, est-ce que vous avez pensé à l'enfant dans ces conditions-là ? Réponse, et ça c'est très très typique de beaucoup de lois bioéthiques. Vous avez déjà regardé les ménages comme c'est aujourd'hui? Le nombre de femmes qui élèvent seules leurs enfants. Le nombre d'enfants qui sont maltraités dans des ménages formés par un couple. Par un couple. Pourquoi est-ce que vous voulez privilégier l'image du couple? Je veux bien que c'est une image idéale, mais elle est tellement idéale qu'elle n'existe pas dans la réalité. Alors, tant qu'à faire. Puisque nous n'avons pas la certitude que l'enfant sera mieux élevé dans un couple que par une femme seule, qui pourra l'aimer beaucoup, où est le problème ? Mais ça revient très souvent qu'une innovation dans le champ bioéthique est justifiée par les imperfections du système actuel. Et donc on passe d'une imperfection de fait à une situation de droit. Alors, en Belgique, nous y sommes, hein, puisque l'auteur du projet parental peut recourir à la procréation médicalement assistée. Et quand on dit l'auteur du projet parental, c'est quiconque. Un couple, bien sûr, couple marié, couple non marié, ou célibataire. Et donc, n'importe qui, en Belgique, peut s'adresser à une institution qui pratique la procréation médicalement assistée. Il y aura des précautions qui seront prises au niveau de la santé psychique, on va passer par un psychologue avant, etc. Mais, en principe, chacun peut s'instituer auteur d'un projet parental. C'est ça la définition de la loi. Auteur d'un projet parental, et donc, à lui seul ou à... Non, à elle seule, pour le moment, on va y arriver, à elle seule s'instituer auteur du projet parental. À la fin des années 80, la ministre de la Santé publique, qui était à l'époque Wivina de Meester, avait convoqué un colloque à grande échelle sur la bioéthique dans les années 90. Et un certain Heyvart de Gand avait intitulé son texte « La femme comme unité de base ». La femme comme unité de base. Donc c'est la femme comme unité de base, et donc elle va pouvoir gérer la vie féminine. Alors, l'autre extrême, donc j'ai parlé de la femme sans autre, c'est le sexe sans altérité. C'est tout le débat qui a eu lieu en Belgique et qui est clôturé maintenant sur le mariage homosexuel. Alors ça, c'est intéressant aussi à voir la dynamique. On a d'abord eu le pacte civil, comme en France, et puis le mariage homosexuel, en disant... Mais nous pouvons ouvrir le mariage aux personnes du même sexe puisque le mariage ne vise plus la fécondité. Donc nous sommes à l'extrême opposé de la loi de 1804 où on dit le mariage est le berceau de la légitimité de l'enfant et donc tout le poids de la légitimité, de la fécondité va reposer sur le mariage en 2003 ou 2004, en tout cas il n'y a pas 10 ans, on admet le mariage homosexuel pour la bonne raison que le mariage n'est plus lié à la fécondité. Tant de couples sont non féconds, ne veulent pas la fécondité, et aussi tant de naissances ont lieu en dehors du mariage. Donc, s'il vous plaît, ne lions plus le mariage à la fécondité. Donc, c'est dit explicitement hein, dans les travaux préparatoires, le mariage ne doit plus être lié à la fécondité. L'année dernière, 55% des enfants français sont nés hors mariage. 55%. Les enfants français sont nés hors mariage. Donc, à partir du moment où vous dites que la fécondité a lieu dehors du mariage et le mariage se passe de la fécondité, que devient le mariage ? Le mariage devient l'institution qui consacre un lien affectif, mais qui ne doit pas être nécessairement fécond. Et à partir du moment où le mariage devient une institution qui consacre un lien affectif qui ne doit pas nécessairement être fécond, vous pouvez l'ouvrir aux homosexuels. Allons plus loin. Si vous ne l'ouvrez pas aux homosexuels, vous établissez une discrimination. Est-ce que vous me suivez ? À partir du moment où le mariage avait pour but, enfin, un des buts du mariage, ça, il y en a d'autres qui sont plus calé que moi sur ce sujet-là, ou un des buts du mariage, c'est la fécondité. À partir du moment où le mariage est complètement découplé de la fécondité, devient une institution de consécration de l'affectivité, vous devez consacrer l'affection de deux hommes l'un pour l'autre ou de deux femmes l'un pour l'autre, tout autant, sinon... Vous faites une discrimination sur la base, non seulement de l'orientation sexuelle, mais sur la base du sexe. Donc tel homme ne peut pas épouser tel autre homme parce qu'il est homme. Ça ne va pas, ça. Donc l'égalité inhérente au droit de l'homme oblige à adopter le mariage homosexuel. Mais cela étant, on dit, ça c'est très, très, très intéressant l'histoire du mariage homosexuel en Belgique, 2 ans plus tard, mais mariage homosexuel, mais évidemment pas d'enfant, hein. Il faut être logique. Dans la mesure où vous admettez que le mariage n'est pas là pour la fécondité, voilà, il n'y a pas d'enfant. 2 ans plus tard, l'adoption, si un couple hétérosexuel peut avoir des enfants, on ne voit pas pourquoi un couple homosexuel ne peut pas avoir d'enfants. Donc, au moment de la réforme de l'adoption, vous admettez que un couple homosexuel puisse recourir à l'adoption, soit l'adoption d'un enfant qu'un des deux partenaires a eu d'un mariage précédent, puis il a changé d'orientation sexuelle, soit un enfant tout à fait extérieur. Donc, et on dit, oui, mais est-ce que, avant de régler cette question de l'adoption, est-ce qu'on n'attendrait pas les débats en cours sur la procréation médicalement assistée ? Non, il y a ce serait une complication législative trop grande, donc on admet l'adoption, et puis l'année d'après, on admet le projet parental. Et donc, pour la procréation médicalement assistée. Et donc, l'auteur du projet parental, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être un couple marié, un couple non marié, une femme seule, comme le disait M. Batetet, mais ça peut être aussi un couple homosexuel. Donc, ce qui va se passer, ce qui se passe couramment en Belgique, c'est que jusqu'ici, ce ne sont encore que des femmes lesbiennes se présentent à Erasme ou à la clinique universitaire de Liège pour se faire inséminer. Donc, en tant qu'auteur de projet parental, elles seront deux mères de l'enfant. Alors, la dernière étape prévisible, c'est que si deux femmes peuvent être ainsi mères, il va y avoir une terrible discrimination à l'égard des deux hommes qui, eux, ne peuvent pas être pères. Puisqu'ils ne peuvent pas, jusqu'ici, ne peuvent pas encore porter un enfant. Donc, je crois que c'est la porte d'entrée presque fatidique vers la gestation pour autrui. Et donc, il faudra autoriser deux hommes à pouvoir recourir à une mère porteuse. Il y a déjà dans la chronique, là, en Ukraine, on est déjà en route d'une certaine façon par rapport à cette pratique-là, toujours au nom de l'égalité. Donc, c'est l'égalité qui a voulu l'enfant légitime, l'enfant naturel, et puis les différents types de couples, parce que toute la filiation a quitté le préalable de l'engagement de l'homme et de la femme l'un envers l'autre comme berceau de la fécondité, et puis la suite de l'histoire a assisté à ce détricotage de l'alliance et de ce découplage de l'alliance et de la filiation. Donc, la filiation est devenue une institution à part entière, mais qui n'a plus rien à voir juridiquement, hein, symboliquement, dans la symbolique des lois, qui n'a plus rien à voir avec une alliance de l'homme et de la femme. Bon, voilà, c'était ça ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Objectif, prendre la mesure du relâchement du lien posé autrefois entre la fécondité des corps, vie donnée et l'échange de la parole dans le mariage.